Au fait, Jonas est un tout petit livre dans l'Ancien Testament. Certains commentateurs parlent même de livret. Ceux qui l'ont lu jusqu'au bout sont certainement surpris de la fin un peu abrupte. Il se clôture par une question de l'Éternel posée à Jonas, et cette question reste sans réponse. Le lecteur a l'impression d'un dialogue interrompu. En le lisant, il est donc difficile de comprendre les intentions de l'auteur. Nous y trouvons l'histoire d'un petit prophète, indiscipliné, peureux, rebelle. Il ne veut pas obéir à Dieu, mais fait exactement le contraire de ce qui lui est demandé. Et ce n'est qu'après bien des vicissitudes qu'il doit se résoudre à aller là où l'Éternel l'envoie pour y accomplir la mission qu'il a reçue. Son manque d'empressement ou son manque de courage sont assez difficiles à comprendre. Et l'on pourrait aussi s'étonner du choix de Dieu. Pourquoi lui, alors qu'il y a probablement de plus grands prophètes disponibles dans le pays, ou des orateurs plus talentueux, ou des serviteurs plus subtils dans l'art de convaincre. Et puis que dire de son témoignage ? Tout le livre est rédigé en style indirect, sauf la proclamation de Jonas, la seule prophétie du livre. 5 mots hébreux en style direct et donc repris de la bouche même du prophète. Encore 40 jours, Ninive sera détruite. En plus, on pourrait dire, elle ne s'est même pas réalisée. Alors, frères et sœurs, pourriez-vous me suivre si je vous dis le livre de Jonas, un évangile ? Si nous établissons un parallèle avec notre message de l'évangile de Marc de ce matin, alors oui, nous pourrions tout à fait parler de Jonas, l'évangéliste. Mais pour cela, il faudrait changer notre vision de la Bible et cesser de percevoir dans l'Ancien Testament un Dieu sanguinaire, violent, frappant les peuples dès qu'ils font un pas de travers, tandis que dans le Nouveau Testament, ce Dieu s'est transformé pour devenir doux comme un agneau, prêt à tout pardonner et à brader son royaume. Dans l'Ancien Testament, un Dieu sans pitié. Dans le Nouveau Testament, un Dieu offrant une grâce à bon marché. Jonas nous remet au centre ce dimanche et nous verrons que son message, même s'il ne prend que 5 mots, contient l'annonce du jugement, c'est-à-dire la colère du Dieu saint qui est sur celui qui commet l'iniquité, car il défend le faible et l'opprimé. Nous verrons aussi que son message contient un délai de grâce, invitant chacun à changer de vie et de comportement, car plutôt que la mort du pécheur, Dieu préfère le voir revenir de ses voies mauvaises. Et dans un dernier point, nous verrons que Dieu change aussi, qu'il change promptement ses plans pour pardonner et faire grâce. Le message de Jonas, une proclamation annonçant un jugement. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Le message est clair et terrifiant. Et surtout, il a l'air définitif. Il n'y a pas de si, ni de mais, ou de à moins que. L'Éternel en a marre, dirions-nous aujourd'hui. La coupe est pleine et sa décision est sans appel. Oui, lorsque nous lisons ce verset, la mission de Jonas semble claire. Il est envoyé pour annoncer le châtiment de Dieu, le châtiment que Dieu a décidé d'infliger à la ville de Ninive. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne se fatigue pas beaucoup pour adoucir le message. Nous avons même l'impression qu'il se délecte à l'avance de la catastrophe à venir. Et pour cause, Ninive, c'est l'envahisseur. C'est à l'époque la pire menace qui soit pour Israël. C'est devenu l'ennemi héréditaire. Alors, pas de pitié. Il n'est pas acceptable que Dieu puisse préserver cette ville qui menace le peuple saint, son peuple élu. Cela, frères et sœurs, c'est la vision de Jonas. Mais est-ce celle de Dieu ? Notre Dieu, même le Dieu de l'Ancien Testament, est-il vraiment un Dieu sans pitié ? Certes, il a réduit Sodome et Gomorre en cendres, nous raconte la Bible. Mais souvenons-nous de ce dialogue entre Abraham et Dieu en route vers ces deux villes. Je me contenterai de vous rappeler une phrase. C'est Dieu qui parle. « Si je trouve à Sodome 50 justes au milieu de la ville, à cause d'eux, je pardonnerai à ce lieu tout entier. » Vous pouvez relire cet épisode dans Genèse 18. Et vous connaissez aussi le marchandage d'Abraham qui, avant de renoncer à parler, est parvenu à faire descendre ce chiffre jusqu'à 10. Alors, revenons à notre question. Dieu est-il sans pitié ? Non. Et si Sodome a été détruite, c'est parce qu'il n'y avait même pas un juste et que personne n'était disposé à la repentance. Et ce fut là toute la différence d'avec le cas de la ville de Ninive. Voyez-vous, Dieu est un Dieu saint qui ne laisse pas le mal impuni. Cela est important à savoir, non pas qu'il soit susceptible ou qu'il se venge de ceux qui n'écoutent pas ce qu'il dit, mais là où il y a meurtre, viol, vol, tromperie, mensonge, il y a des hommes et des femmes aimés de Dieu qui souffrent, qui subissent l'injustice et l'arbitraire. Et quand cela dépasse l'entendement et le supportable, Dieu peut décider d'intervenir. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Frères et sœurs, voilà un premier enseignement pour nous. Notre Dieu est à prendre au sérieux quand il parle de son aversion pour le mal. Et surtout, ne commettons pas l'erreur de croire qu'il y a une graduation dans le mal, qu'il y a les fautes graves et les autres, celle sur laquelle il ferme les yeux. Et encore moins que les fautes graves, c'est les autres qui les commettent, tandis que nous. Non, Dieu déteste le péché, nous dit sa parole. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit détestent le péché et abandonnent le rebelle à son sort. Mais en sachant cela, nous n'avons pas encore aperçu l'Évangile dans notre passage de ce matin. Nous y arrivons. La proclamation de Jonas s'accompagne d'un délai, un temps de grâce propice à la repentance. Quand une annonce de condamnation s'accompagne d'un délai, celui à qui elle est destinée devrait se dire « Il reste du temps pour implorer grâce et supplier Dieu » dans l'espoir qu'il change d'avis. Notre passage nous dit que les habitants de Ninive mirent leur foi en Dieu. Au lieu de se moquer de ce petit bonhomme, membre d'un peuple insignifiant en regard de la puissance assyrienne, dont le Dieu était probablement de la même taille que lui, ils réalisèrent qu'ils étaient en grand danger. Jusqu'à quel point connaissaient-ils le Dieu d'Israël ? Sa renommée était-elle parvenue jusqu'à Ninive ? Cela ne nous est pas dit. Mais Jonas, lui, connaissait parfaitement l'Éternel, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Il savait de quoi il était capable. Il croit en un Dieu de bienveillance et de miséricorde. Et c'est pour cette raison qu'il s'est enfoui, parce que, comme il le dira au début du chapitre suivant, je savais que tu es un Dieu clément et compatissant, patient et grand par la fidélité, qui renonce au mal. Il savait que Dieu ne se comporte pas seulement comme cela avec son peuple, mais avec sa création tout entière. Et il craint donc que les gens de Ninive se repentent, qu'ils fassent pénitence. Et cela, Jonas ne le veut pas. Frères et sœurs, un mot sur la pénitence, ce mot que nous venons d'entendre. Il y a deux parties dans la pénitence. L'une est la contrition ou la peur inspirée par le péché reconnu par la conscience. L'autre, la seconde partie, est la foi qui naît de l'Évangile et qui croit que les péchés sont remis à cause de Jésus-Christ. Et cela réconforte la conscience. Alors après cela suivent les bonnes œuvres qui sont les fruits de la repentance. Ce que notre texte rempart au verset 8, que chacun revienne de sa voie mauvaise et de la violence de ses mains. Telle est en tout cas l'explication que donne Martin Luther de ce mot. La peur et le remords qui font prendre conscience que nous sommes sur une mauvaise voie, que cela ne peut plus continuer de la sorte, et puis la foi en ce Dieu qui donne un délai pour changer. Voilà la bonne nouvelle, voilà l'évangile de Jonas. Oh, il ne s'agit pas d'un long exposé, ni même d'un catéchisme, mais c'est énorme, malgré tout. Dieu vous voit, il observe vos actions, et ce qu'il voit ne lui plaît pas du tout. Mais il donne du temps pour changer de comportement et pour faire appel à sa grâce. Et c'est encore pour cela que nous nous sommes retrouvés ici ce dimanche matin. Jésus ne dit pas autre chose dans le passage de l'Évangile de ce dimanche. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché, changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. » Quelle bonne nouvelle ? Celle qui dit que le Messie est maintenant parmi les hommes pour accomplir le salut annoncé par les prophètes, notamment par le prophète Isaïe. Et je ne résiste pas au plaisir de vous citer encore deux versets d'un chapitre moins connu de Isaïe, c'est le chapitre 53, celui qui parle du serviteur souffrant, et qu'on a eu tout un temps beaucoup de mal à saisir. Il est dit « Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. » C'était peut-être un peu difficile à saisir à l'époque du prophète Isaïe, mais pour nous qui vivons dans l'ère post-Golgotha, si je puis m'exprimer ainsi, c'est lumineux. Nous y voyons Jésus mort pour nos péchés. Et nous voici à notre troisième point. Face à la repentance du pécheur, Dieu change d'avis. Et pourtant, nous avons parlé de constance de Dieu dans le psaume de louange. Voyez la patience de notre Dieu. Quelle différence d'avec Jonas qui commence par fuir et puis qui se fâche même contre l'Éternel. Quelle différence aussi avec deux héros du Nouveau Testament, avec Jacques et Jean, qui veulent appeler le feu du ciel sur un village des Samaritains parce qu'ils avaient refusé de recevoir le Messie. Oui, oui, le Jean dont nous avons entendu parler dans l'Évangile, un autre évangéliste est celui qui a écrit plus tard ce merveilleux verset « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Frères et sœurs, nous vivons dans le temps de la patience de Dieu qui nous dit encore ce matin, par la bouche du prophète Jérémie, « Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, de déraciner, de démolir ou de faire disparaître. Mais si cette nation contre laquelle j'ai parlé revient du mal qu'elle a fait, je renonce au mal que je pensais lui faire. » Dans un psaume, nous lisons « Si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. » C'est aussi ce que nous dit l'apôtre Paul dans l'extrait de la lettre aux Corinthiens que nous avons entendu ce matin. Ce n'était pas un plaidoyer contre le mariage ou contre l'utilisation de ses ressources. Non, il insiste sur l'urgence d'être prêt à rencontrer notre Dieu, car cela peut survenir à tout instant. Il nous encourage à renoncer à tout ce qui peut nous détourner de notre attachement à Dieu, tout ce qui peut, à un moment donné, constituer un obstacle entre lui et nous. L'obstacle entre Dieu et nous, ce n'est plus l'accomplissement de la loi. Cet obstacle a été levé par le Christ à la croix. C'est lui qui s'est chargé de nos fautes, comme l'annonçait Ésaïe, dans le passage que je vous ai cité il y a un instant. C'est cela le message de l'Évangile. Dieu a tout accompli, et ce qui a maintenant de la valeur, disait l'apôtre Paul aux Galates, c'est la foi qui opère par l'amour. C'est cet amour qui produit les bonnes œuvres. Ce sont ces bonnes œuvres qui, finalement, sont le fruit visible de la repentance. Les Ninivites ont espéré le pardon de Dieu. Ils l'ont attendu dans le chemin de la repentance. Éloignons de nous le mal, se sont-ils dit l'un à l'autre, et l'ardeur de son indignation cessera peut-être. Eh bien, ces païens ont été plus sages que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens et qui se flattent d'obtenir le pardon de Dieu alors qu'ils ne sont pas sincères dans leur repentir. Rien sur cette pauvre terre ne désarme plus sûrement le courroux de notre Dieu que la vue d'une vraie repentance. Dès que le Père voit le Fils reprendre le chemin de la maison paternelle, il court à sa rencontre, il le presse sur son cœur et le comble de ses faveurs. « Retournez vers moi, nous dit Dieu. » C'est encore une parole de l'Ancien Testament. « Retournez vers moi et je retournerai vers vous. Je ne me souviendrai plus de vos péchés ni de vos iniquités. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Que notre Seigneur nous soit en aide pour accomplir cela. Amen.